1, 2, 3.
Je suis James McBride.
Je suis Sébastien Danchin.
Je suis Martin Kenéen.
Et je suis Mathilde Serrel. James McBride, vous êtes à la fois saxophoniste jazz, ancien journaliste et romancier américain. Et parce que pour vous, la musique et la recherche de la vérité, c'est toutes ces facettes que vous mettez à profit dans « Mets le feu et tire-toi », formule de James Brown dans la fin de ses concerts et titre de votre enquête romanesque sur le père du funk, publié aux éditions Gallmeister. Sébastien Danchin, vous êtes historien, biographe de Billie Holiday, Aretha Franklin ou encore Elvis Presley. Vous êtes également directeur artistique et programmateur du Paris Jazz Festival. La prochaine édition s'ouvrira le 17 juin à Paris, au Parc Floral. Ce soir, c'est l'histoire de la musique noire qui se réécrit au présent dans Ping Pong.
Ping Pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
Il y a 10 ans, Monsieur Dynamite s'éparpillait dans le cosmos, sûr aujourd'hui que l'âme, la soul de James Brown, s'est métamorphosée en quelques superstars ou en un trou noir qui continue de faire groover les aliens. Mais il est sûr aussi que les cuivres qui lui dessinent une auréole, comme à la planète Saturne chère à Sun Ra, improvisent dans l'espace un duo avec un autre astre, sans doute dans la constellation de la Lyre, un astre nommé Alice Coltrane, disparue elle aussi il y a 10 ans, est partie en voyage astral depuis son ashram californien. Alice Coltrane, pianiste et harpiste jazz, dont la musique venait de l'église et du bebop, agressive et percussive, se souvient son producteur dans les pages du magazine Grazia, un peu comme James Brown, me direz-vous. Alice Coltrane, femme, et donc favorite du grand John, femme libre à ses côtés, puis carrément free chez Pharoah Sanders, et enfin mystique et védique, tendance cybernétique, comme en témoigne un disque qui paraît ces jours-ci, The Ecstatic Music of Alice Coltrane, édité chez Luaka Bop, de la musique planante. Mais moi, pour tout vous dire, pour sentir vibrer la planète, eh bien, j'écoute Alice Coltrane avec Charlie Haden sur l'album Closeness Duets, cette musique qui joue en ce moment sous nos pieds, dans nos oreilles. Homme. James McBride, une question à vous, l'écrivain, le journaliste, le scénariste, mais aussi le saxophoniste ténor, puisque dans votre livre « Mets le feu et tire-toi » consacré à James Brown, tout est question du son et de l'influence de ce parrain de la soul music. J'aimerais connaître l'influence et les vibrations que provoque en vous le son d'Alice Coltrane.
Alice Coltrane was ahead of her time. And so
Alice Coltrane était une pionnière en avant sur son époque.
She makes me feel a little bit sad.
Elle me remplit de tristesse.
Because her generation of musicians are pretty much gone.
Parce que sa génération de musiciens a disparu, y compris Charlie Haden.
I know a funny story about him if you want to hear it.
Vous voulez une anecdote sur Charlie Haden?
Charlie Haden was on
a
radio show in New York.
Participait à une émission de radio à l'Université de Columbia à New York. Et il était encore un peu camé.
Bon,
après, il a un peu lâché la drogue, mais à l'époque, il était camé. Et l'intervieweur lui a dit: Charlie Haden, je suis si ravi de vous voir ici. Vous êtes un musicien trop génial. Je suis en pleurs. C'est trop génial. Bienvenue à cette émission.
How are you today?
Et comment vous allez aujourd'hui?
Charlie Haden,
et Charlie Haden a marqué une pause.
And then he said,
il a dit,
fuck it. And that was it.
Et voilà, c'est tout.
But I mean, he said, that's not to
We're crying, but we're not asking a question. On pleure aussi, mais on ne va pas vous poser la question, James McBride.
Mais par contre, on peut compléter peut-être le portrait d'Alice Coltrane avec vous, Sébastien Danchin, en tant que programmateur du Jazz Festival, mais je l'ai dit aussi en tant que historien et biographe de référence sur B.B. King, sur Elvis Presley. Il y a une encyclopédie du rhythm and blues et de la soul aussi qui est parue chez Fayard. Vous avez quel regard sur Alice Coltrane, veuve de John, figure centrale et pourtant assez oubliée voire ignorée de la musique afro-américaine.
Je ne sais pas si elle est ignorée. Je pense que les gens qui connaissent Coltrane savent ce qu'elle a fait et ce qu'on lui doit. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Coltrane et de sa femme et de leur relation en réalité, c'est de voir comment on assiste à une mutation de la société afro-américaine dans les années 60. On passe... Coltrane, lui, c'était un saxophoniste de rhythm and blues. Il faisait les souffleurs... ou les soufflants, comme vous voulez, avec des gens comme Bobby Bland, etc., quand il était de passage à Philadelphie. Et on voit qu'il est sorti de l'école primaire pour entrer à l'université. Et c'est un moment où justement la communauté américaine entre dans une nouvelle phase de son histoire. Et leur histoire, la façon dont ils envisagent la spiritualité, le rapport avec la cosmogonie, avec le monde, etc., est bien la preuve qu'il y a une évolution. Et ils étaient très en avance sur leur temps, et musicalement, et je dirais éthiquement, philosophiquement.
On a dit qu'elle était peut-être trop émancipée par rapport à l'héritage de son mari, que c'était peut-être ça qui avait joué, qu'elle avait pris des libertés musicales.
Oui, bon, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on touche aux idoles. Moi, je trouve que l'avantage des idoles, c'est qu'elles sont faites pour qu'on les touche, justement, et qu'on puisse avoir une opinion. Si les idoles restent telles qu'elles ont été, elles n'apportent pas grand-chose.
James McBride, vous touchez les idoles. Vous avez pu écrire dans ce livre sur James Brown que lui rendre hommage ne coûtait rien à personne, qu'il était comme John Coltrane ou Charlie Parker ou Louis Jordan ou n'importe lequel de ces innombrables artistes noirs dont la musique a été immortalisée, tandis que la communauté dont ils étaient issus continue de souffrir. Vous avez touché une idole avec ce livre sur James Brown.
Well, he was a flawed person.
Il y avait une grosse fêlure chez James Brown. Et ces gens-là étaient comme nous, hein. Ils mettaient leurs pantalons comme nous le matin. Mais en même temps, c'était un musicien exceptionnel. Il représentait beaucoup de choses pour la communauté afro-américaine, plus que Coltrane, Marie et
Franck.
Bon, je ne vais pas vous dire qui est le plus important sur le plan musical. Je ne me permettrai pas, mais pour nous, James Brown, c'était comme le vieil oncle qui arrive à Noël, qui enlève son dentier, qui boit un peu trop et qui se ridiculise au repas de Noël. Mais on l'adore, ce vieil oncle. Donc on l'adorait. Et c'est pourquoi j'ai fait ce livre. On adorait James Brown. C'était un génie et puis un cinglé adorable. Et c'était la vie des Afro-Américains dans toute leur excellence. Alors que les Coltrane, eux, c'était des porte-parole de l'humanité. Évidemment, il y a Ravi maintenant.
Ravi Coltrane, en fait.
Et les autres aussi qui suivent.
Une question peut-être en rebond à l'actualité, si vous acceptez, James McBride, qui peut toucher la France en ce moment. Il y a la tenue d'ateliers non mixtes au festival afro-féministe Nian Sapo qui suscite la polémique, interdiction proposée par la mairie de Paris. Il y a une romancière, Dominique Manotti, qui rappelait ses luttes féministes et qui dit que c'est un moment nécessaire, en fait, la non-mixité pour l'émergence d'une parole politique. C'est aussi Caroline Roland-Diamond, qui est historienne des États-Unis, qui évoque cette idée de pouvoir s'organiser par soi-même et dans la non-mixité comme un moment nécessaire de la lutte pour les droits civiques au moment du mouvement Black Panther dans les années 60 aux États-Unis. Vous avez quel regard, vous, sur cette idée d'assemblée non mixte?
Well, I grew up poor in America and black. You know, my mother was white.
J'ai grandi aux États-Unis. Ma mère était blanche, mais je vivais au sein de la communauté noire. Et moi, je connaissais l'existence des Black Panthers. C'était des gens très intéressants et efficaces, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette notion de ségrégation des uns par rapport aux autres. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Malcolm X ne pensait pas que ce soit nécessaire, lui non plus. Et Malcolm X, il était éminemment respecté à New York. Plus que quiconque, à New York, là où j'ai vécu, et à la fin de sa vie, peu importe, c'était un bon père de famille, un musulman, un type adorable. Donc je ne suis pas d'accord avec cette notion de nécessité de la ségrégation. Mais il faut faire attention lorsque les problèmes personnels et politiques se mélangent dans une sorte de bouillon. Ben, ce bouillon, il a un sale goût, il a un goût amer, à mon avis. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais bon, chacun a sa propre conscience. Hein. Mais le problème est plus vaste que ça. Il faut que les gens mangent, il faut qu'ils aient où dormir. Il y a des millions de Syriens qui ont besoin d'un toit. Ces conversations intellectuelles et ces prises de tête, moi, ça ne m'intéresse pas.
Brooklyn,
c'est la même chose dans mon église, dans ma paroisse, que depuis toujours. Hein, donc, moi, j'ai pas trop de temps. Je veux pas consacrer trop de temps à des prises de tête comme ça.
Sébastien Danchin.
Je trouve que ce qui est intéressant, j'ai lu dans le livre de James McBride un moment intéressant. Il nous explique tout au long. Bon, d'abord, c'est un portrait tout à fait extraordinaire parce que c'est un portrait en creux. En fait, c'est pas un portrait de James Brown, mais c'est un livre sur James Brown à partir de tous les gens qui l'ont connu et des proches.
De cette constellation aussi d'étoiles éclipsées.
Voilà. Alors, c'est un peu comme un négatif qu'on fait apparaître dans une photographie. D'un seul coup, on voit le négatif se transformer en positif. Et c'est tout à fait extraordinaire comme technique et c'est passionnant de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant dans ce livre, par rapport à ce qu'on disait, c'est qu'il montre que James Brown, à la fin de sa vie, a voulu léguer sa fortune, sans y parvenir jusqu'à présent d'ailleurs, parce que les races s'accumulent autour des fortunes assez facilement. Mais il a voulu léguer sa fortune à des enfants défavorisés. Et il ne s'intéressait pas au fait que les gamins soient blancs ou soient blacks. Il s'intéressait au fait qu'ils soient pauvres et qu'ils aient besoin de cet argent. Et je pense que le débat sur le noir et le blanc, c'est un débat qui est totalement dépassé et qui n'a plus aucun sens, même s'il recouvre une réalité dans son absurdité, dans sa violence au quotidien. Le débat lui-même n'a plus de sens. Quand W.E.B. Du Bois disait en 1900, au début des années 1900...
Dubois, en version française.
Voilà. William Edward Burkhardt de son prénom. Quand il disait en 1903 que le problème du XXe siècle serait celui de la color line, c'est-à-dire de la frontière entre les races.
Il a donné cette belle exposition à Paris, notamment.
Il y a quelques mois. Je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est the social line, c'est la frontière sociale, c'est les réalités, c'est le gouffre qui sépare des pans entiers de l'humanité. Et c'est là, aujourd'hui, où se trouve le vrai débat. Alors, ostraciser l'autre, je ne pense pas que ce soit vraiment la meilleure solution. Maintenant, chacun, comme le dit James, fait comme il peut.
Et comme vous le dites, James McBride, quasiment au début de ce livre, donc « Mets le feu et tire-toi » consacré à James Brown, quelqu'un l'interroge sur, vous interrogez quelqu'un sur les relations de James Brown avec les Blancs et le sentiment viscéral que lui inspirent les Blancs. Et la réponse, c'est la peur. Et vous considérez que chaque Noir américain, du moins de cette génération-là, avait forcément au fond de lui une peur terrible, panique des Blancs, et qu'il avait comme une pièce, une panic room, une pièce comme ça protégée au cœur de lui-même pour essayer d'échapper à cette terreur. Vous pensez que c'est une terreur qui s'est évanouie et qui s'est évaporée, heureusement, pour la génération d'aujourd'hui ?
Non, pas du tout.
Ah non, elle ne s'est pas évanouie. Hein. À mon avis, cette peur est aussi présente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 30 ou 40 ans, avec le système d'incarcération industrielle aujourd'hui qui gagne beaucoup d'argent à incarcérer les Hispaniques et les Noirs. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon ami, camarade musicien.
Sébastien Danchin.
Je suis tout à fait...
Allez.
It's okay, James.
Oui, je comprends ce que c'est que d'être arrêté par les flics. Moi, on m'a demandé mes papiers combien de fois. Et moi-même, je suis de couleur, donc je comprends très bien. Mais il faut aller au-delà de la haine que l'autre peut avoir envers soi-même. Et il faut évidemment surmonter sa propre peur, sinon on devient comme l'autre. Si vous voulez savoir ce que ressentent les Noirs, demandez à un Américain aujourd'hui qui est en colère à propos de Donald Trump. Pourquoi est-ce que les Américains se sentent complètement impuissants? Ils ne peuvent rien faire. Et ce type-là, il fait ce qu'il veut. Eh bien, bienvenue à l'Amérique noire. Eh bien, ça, on connaît ça depuis 50 ans, nous. Hein. Les Noirs dans ma paroisse ne parlaient même pas de Donald Trump. Ils sont tellement habitués à ce genre de situation. C'est les Blancs qui font des trucs insensés. Et ce que je veux dire, c'est que quand on recherche l'élément positif, le bien, quelque part, c'est ça qu'il faut faire. Alice Coltrane, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a apporté de la beauté au monde de manière tout à fait sophistiquée. Et par ailleurs, Elle a un fils qui doit se battre aussi.
That's all that counts.
Et c'est tout ce qui compte, au bout du compte. C'est l'amour. Voilà. Il faut aimer quelqu'un, il faut s'aimer. Pourquoi perdre du temps avec quelqu'un qui n'est pas suffisamment noir pour aller à tel ou tel assemblée? Moi, je m'en fous, moi. Du moment qu'on m'appelle à l'heure pour bouffer, ça me va, moi. Parce qu'il y a des trucs à faire ensemble. Il y a des gens qui ont besoin d'un toit, il y a des gens qui ont besoin de choses, des gens de Syrie, d'Afghanistan, qui sont dans la merde totale. Qu'est-ce qu'on attend?
Ben justement, qu'est-ce qu'on attend? On va en parler ce soir de ces migrants avec un manifeste poétique pour la libre circulation en live. Arthur H, la chanteuse Thaï et le poète soudanais Monaim Rama qui seront là pour lire hein, à leur manière des passages du livre de Patrick Chamoiseau, Frères migrants. Avec vous ce soir, Sébastien Danchin et James McBride. Nous allons connaître un peu plus le père du funk.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen.
Please, please, please.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Depuis les coulisses, Sharpton regarde le chanteur emballer la foule. Entre les deux concerts, il est à nouveau appelé dans la loge de Brown. Et là, il trouve son idole avec des bigoudis, la tête sous le sèche-cheveux. James Brown s'adresse à lui en criant sous le casque, incapable d'entendre les réponses de Sharpton. Cette fois-ci, c'est à cause du sèche-cheveux que Sharpton peut à peine comprendre ce qu'il lui dit. Mais il suit du mieux qu'il peut. « Fiston, tu sais comment j'ai réussi ?»« Non, monsieur. » »« J'étais un original. Il n'y a eu personne comme moi avant moi. Si ça te fait peur d'être un original, dis-le-moi tout de suite. » Pas la peine de perdre notre temps.
Il n'y a pas que Sex Machine ou I Feel Good, c'est ce qu'on appelle un rare groove, Papa Don't Take No Mess. À l'instant, James Brown et la lecture de la page 156 de votre livre, James McBride, Mets le feu et tire-toi, c'est publié aux éditions Gaël Mesta. Je rappelle que vous serez également l'invité de l'excellent festival Étonnant Voyageur du 3 au 5 juin à Saint-Malo. Nous sommes là avec un James Brown sous sa perruque, sous sa machine à mise en pli pendant 3 heures. 3 heures de ce que vous appelez la dissimulation. Et c'est la pièce centrale de ce livre. En quoi, finalement, aucun bon roman ou aucune bonne enquête n'avait été publiée sur James Brown, tout simplement parce qu'on n'assumait pas que c'était un être dissimulé.
Well, yeah, he had a lot of doors that he hid behind.
Il se cachait derrière pas mal de portes. Il avait différentes catégories d'amis. Ceux qui avaient du fric, ceux qui n'avaient pas, les promoteurs, ceux qui n'étaient pas promoteurs, ceux qui étaient musiciens, ceux qui n'étaient pas, mais amis avec personne. Voilà un homme avec de nombreuses facettes, de nombreux visages. Moi, j'étais ravi de ne pas travailler pour lui, hein, je vous le dis. Mais au bout du compte, James Brown ne pouvait pas ne pas être lui-même. C'était ça, la magie de James Brown. Lorsqu'il essayait d'être hip, eh ben, il ne l'était pas du tout. Quand il essaye de faire semblant, et ça ne marche pas, parce que c'est un type de la campagne, quoi, c'est tout. Mais il était d'une telle pureté. Voilà un gars qui se décrivait comme étant l'enfant d'une mère qui était en partie asiatique et un père qui était en partie indien. Et lui, c'était l'homme noir d'une très grande pureté. Eh bien, James Brown, c'est le type extraordinaire. Il peut arriver dans un village et puis donc il serait absolument à sa place, quoi. Il s'intégrerait parfaitement n'importe où. Mais son problème, C'est son problème, c'est que, en réalité, c'était un vrai artiste en raison de ses problèmes. C'est ainsi, c'était son carburant, tout ça.
Oui, alors on retrouve ce James Brown avec sa coiffure Pompadour, justement dans l'extrait, mais il s'agit d'aller au-delà et allons du côté de l'artiste que vous éclairez aussi à travers ce livre et cette enquête qui est non seulement sur sa personnalité, mais bien sûr sur sa musique. Et vous dites basta avec la funkiness, la funkitude, comme on pourrait dire en français. Parlons plutôt du son et de l'influence de James Brown. Alors, disons un mot du son au départ. Écrivez-vous, ce sont des cris, des couinements aux oreilles des critiques blancs, mais qu'est-ce que c'est encore qui fait du son de James Brown, le parrain de la soul, James McBride?
Well, first of all, James Brown had a heavy jazz influence.
Tout d'abord, il avait été influencé par le jazz. Pee Wee Ellis a joué avec lui.
Pee Wee Ellis, qui est cet architecte du son de James Brown.
Oh, the architect of the sound.
Oui, l'architecte du son, c'est ça.
His sound was shaped by
son son a été forgé par son expérience dans le gospel au cours de son enfance.
Daddy Grace's apostolic church, which was one of those churches.
L'église, c'était une église avec de la sueur par terre. On commence la messe à 10 heures, on arrive, le temps passe si vite qu'il est 6 heures du soir, et c'est génial, quoi. Moi, je suis allé dans cette église, ça ne s'arrête pas, c'est l'église de Daddy Grace, la musique ne s'arrête jamais. C'est un gospel enivrant. Peut-être qu'en France, vous l'avez vu, parce qu'en France, vous voyez tout un tas de musiques différentes, mais moi, j'ai jamais vu ce genre de musique de ma vie. Imaginez 20 ou 30 cuivres qui jouent sans cesse, puis tout à coup, ils baissent le volume, quelqu'un prêche, et puis ils font remonter le volume, et ils s'arrêtent jamais de jouer. C'est en permanence, quoi. Et donc, quand on entend ça, eh bien, on comprend d'où vient le son de James Brown, parce que ça vient de là. Et puis après, il a fait le Chitlin Circuit avec le blues, le jazz, et puis il a évolué vers le rhythm and blues. Donc, c'est l'un des rares artistes. Little Richard, lui, par exemple. On dit pas que c'est une star du R&B, ou Little Milton, ou Curtis Mayfield, ou les gens de la Motown. Ces gars-là n'ont pas connu la même expérience. Certains de la Motown, mais pas dans la même mesure que James Brown, parce que les musiciens de James Brown venaient du Sud. Tous ces bons musiciens venaient du Sud, des États-Unis. Et ils avaient un son du Sud. Les musiciens de New York, ils jouent pas comme ça.
Sébastien Danchin, le regard du spécialiste jazzistique, entre autres, là-dessus, et sur peut-être oui, l'intérêt de cette influence jazz dans la musique de James Brown, notamment ce temps qui va se décaler, qui va créer le funk.
Bah, c'est toujours... Alors, parler du funk, ça, je suis d'accord avec James Brown, que c'est ça relève du cliché. On dit que c'est l'inventeur du funk, etc. Bon, je crois que c'est pas tellement intéressant de savoir qui a inventé quoi. Je veux dire, qui invente une musique, on est le fruit. Et James le disait, il y a autant de jazz. Son idole, ses idoles, c'était effectivement l'église, c'était Little Willie John, c'était un certain nombre de gens comme ça. C'était bien sûr des gens dans le blues. Moi, ce qui me semble intéressant par rapport à son impossibilité d'être lui-même, c'est que et jusqu'à aujourd'hui, il est impossible dans l'Amérique noire d'être soi-même sans avoir une couverture comme un espion.
C'est dissimulation dont parle James McBride.
Permanente. Et ça remonte évidemment à l'époque de la servitude. Quand on parle des spirituals et qu'il y a des spirituals comme Follow the Drinking Gourd qui parle du ciel et qui parle de Dieu et de l'arrivée au paradis. En réalité, il s'agit de suivre la grande ourse pour aller vers le nord, pour que les esclaves échappés puissent arriver jusqu'en dans les États du Nord, voire aller dans le Mississippi. Qu'est-ce que c'est que l'histoire du blues? Toute l'histoire du blues, c'est double entendre, comme on dit en bon anglais, c'est-à-dire le double sens, c'est quand on raconte une histoire, il y en a une autre qui est comprise par les personnes de la communauté afro-américaine. On a souvent dit, par exemple, que le blues était une musique misogyne parce que le chanteur disait toujours du mal de la femme en disant, voilà, elle me maltraite, elle me pique tout mon fric, etc. En réalité, c'est une métaphore pour dire que le système oppresseur et le système blanc pique tout son fric et rend malheureux le bluesman.
C'était Radio Londres, en fait.
C'était Radio Londres, c'est exactement ça. Ce sont des messages subliminaux en permanence. La grande différence qu'il y a entre le blues, entre l'époque du blues et l'époque de la soul, avec quelqu'un comme James Brown, c'est que on change de paradigme dans le discours même. Le blues, c'est à la première personne du singulier, c'est je. I am miserable. I got up this morning and I felt like crying. Okay. Après, quand on arrive avec la soul, c'est oui, c'est la première personne du pluriel. Et déjà, on voit que là, il y a une évolution considérable. Il n'est plus question d'être tout seul. C'est parler we are the people.
One, two, get down. Paid the cost to be the boss.
Le boss, c'est donc bien dans le domaine musical James Brown, le boss qui, on le lit dans votre récit, enquête, James McBride, va dépanner de $3,000 son rival Isaac Hayes quand ce dernier est dans la débine, celui qui a voulu mettre à terre tous ses rivaux et qui en même temps les respectait, mais c'est aussi un boss politique qui, vous y insistez dès le début du livre, a vécu cette carrière aussi sur, je dirais, sur la peau, sur le dos de la question noire, mais il est aussi cet influenceur, celui qui est capable de ramener à lui tout seul le calme dans des villes embrasées après l'assassinat de Martin Luther King en 1968. Et puis il est celui qui fait voter les Afro-Américains aux élections. Parlez-nous de cette influence politique et encore une fois peut-être de ce double, ces paradoxes, cette ambiguïté d'avoir fait carrière aussi parce qu'il y avait une question noire, parce qu'il y avait un problème racial aux États-Unis.
Oh, that's a good point to say thanks to the racial issue.
Ah oui, c'est vrai que ce que vous dites c'est tout à fait juste. Donc,
no one asks Mick Jagger if he's the leader of white people when he sells records.
Bruce Springsteen ou Mick Jagger, on lui demande pas si c'est le leader de la communauté blanche quand ils vendent leurs disques. James Brown, c'était un roi politique malgré lui. Ça lui est tombé dessus. C'était vraisemblablement la personne la moins bien placée pour être le porte-parole des Noirs. Parce que lui, il s'en foutait. Tout ce qu'il voulait faire, c'était gagner du fric, James Brown, et rencontrer des femmes, et puis s'acheter des Cadillacs. Et tout à coup, le voilà le porte-parole des Noirs. Alors, il a fait de son mieux pour assumer cette responsabilité, et parfois il dit des choses formidables, donc noir, fier de l'être, et ainsi de suite. Donc, c'est pour lui dire ça, il n'a jamais pu ne pas être noir. Mais il y avait des meilleurs candidats, Isaac Hayes, Curtis Mayfield, Smokey Robinson, lui il aurait été génial s'il avait été à la place de James Brown pour être le porte-parole des Noirs. Mais bon, c'est comme ça, parfois ça vous tombe dessus, et parfois c'est la mauvaise personne qui est chargée des responsabilités. Lui, c'était un type super talentueux, mais sur le plan politique, il était assez conservateur quand même. Hein. Il voulait la belle maison, la belle bagnole. On parlait des jeunes femmes. Toutes les femmes sont jeunes avant l'âge de 80 ou 90 ans, mais bref. Donc, ça jouait un rôle important pour lui aussi. Donc, on parlait de ça tout à l'heure. Et lui, il adorait que les femmes l'embrassent sur la bouche, en réalité, parce que, bon, c'était ça qui kiffait, ça qui le faisait avancer. Je me souviens, il y a deux types qui... Non, il est allé voir des sans-abri à New York, et il y a un type qui a dit, Monsieur Brown, nous, on n'y arrive pas ici, hein. On gagne pas d'argent, c'est la merde. Et James Brown a dit, bah, vous devriez avoir honte, les mecs. Vous devriez vous trouver un boulot. Moi, si j'étais vous, j'irais trouver un boulot tout de suite. C'est pas comme ça qu'on parle à SDF, hein. Et quand on est SDF, on comprend pas bien quand quelqu'un vous parle comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Bon, malgré ça, il a quand même fait le bien avec les avantages qu'il a pu tirer de sa musique.
Sébastien Danchin.
Moi, je crois qu'il a aussi fait quelque chose d'extrêmement important, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'une situation et qui, en fait, la reproduisent dans leur vie. Plus de 70% des enfants battus battent leurs enfants. Lui, il a fait tout à fait l'inverse. Il a pas pu finir ses études. Il a été relativement peu à l'école et en fait, il a poussé tous les gens énormément à l'école. Moi, quand j'habitais dans le ghetto de Chicago, j'habitais dans les Robert Taylor Homes, qui étaient les cités du South Side de Chicago dans les années 70. Et quand je vivais là-bas, c'était un modèle pour énormément de parents, parce que justement le fait qu'ils veuillent gagner de l'argent et qu'ils veulent réussir, c'était une façon de dire que la population afro-américaine pouvait également avoir une part du rêve américain. Et évidemment, ça peut paraître extrêmement mercantile comme rapport avec la société, mais en réalité, il s'agissait quand même de trouver sa place au sein d'une société, et ça, il a quand même contribué à ça énormément. Moi, je connais énormément de gens qui m'ont dit James Brown nous a expliqué à la télé qu'il fallait aller à l'école, qu'il fallait faire des études, et qu'on pouvait y arriver comme ça, et que voilà, et derrière, ça a influencé. D'ailleurs, il y a des exemples dans le bouquin de James.
Quand il l'a dit, c'est paroles d'évangile. Oui.
Tout à fait.
Mais vous l'avez, oui, James McBride.
Oui, oui, je me permets d'ajouter.
You lived in the Robert Taylor Homes. You lived in...
Vous étiez
that was one of the worst housing
dans un des quartiers les pires.
Don't tell me.
I
was born in Red Hook,
moi,
Brooklyn,
je suis né à Red Hook, un quartier de Brooklyn, et c'est un quartier vraiment pas terrible, et j'y vis encore d'ailleurs, j'y travaille. Et donc j'ai lancé un programme musical il y a 5 ans, mais rien n'a changé là-bas. Et ce qui m'attriste dans vos propos, c'est que James Brown voulait représenter tant de choses pour nous dans la communauté noire, et pourtant on en est toujours là où on était avant. On a eu quelques réussites, on a eu un président génial pendant 8 ans, là, bon, il y en a qui ont réussi, mais maintenant, avec le système d'incarcération industrielle aux États-Unis, ça a tout changé. Ça a changé la vie des Afro-Américains et ça a changé la musique aussi. La musique de James Brown, c'est une musique d'espoir. Isaac Hayes, c'est une musique d'espoir. Aujourd'hui, la musique, c'est sûr. Les salopes, le cognac, l'alcool, la drogue, la prison. C'est ça, la musique d'aujourd'hui, c'est ça. Et ça, c'est l'esclavage, c'est quoi si c'est pas l'esclavage? C'est ça, les nouvelles lois Jim Crow, c'est ça? Donc, c'est ça qui m'attriste.
New lynching, c'est d'ailleurs ce que Mo Rogers, qui est un des grands philosophes du blues, appelle le new lynching. Et il dit que c'est
le nouveau lynchage
aujourd'hui. C'est que on sait qu'un Afro-Américain sur deux qui naît aujourd'hui passera par la case prison, qu'il représente 10% de la population et 45% de la population carcérale.
Il y a aussi des implications en termes de vote, ensuite, au moment des élections.
Bon, il y a des implications surtout, sauf que, de toute façon, à partir du moment où on a des carences en termes d'éducation, on ne va pas voter. Donc, c'est un problème qui est extrêmement complexe. Je veux dire, il est évident que l'éducation peut faire beaucoup. Et moi, je crois que de ce point de vue-là, le message reste d'actualité plus que jamais.
C'est-à-dire les 100 millions de dollars, la grande fortune que laissait James Brown derrière lui, qui voulait donner aux gamins défavorisés pour qu'il y ait justement accès à l'éducation. Et ça a été dilapidé. Hein, vous en parlez, James McBride. Vous êtes aventuré dans la carcasse d'une vie détruite, en ruine, boulottée par les avocats des familles. 1, 2, 3...
À suivre dans Ping Pong, et ben on va parler de la question jazz à la française avec le Paris Jazz Festival dont vous êtes le directeur artistique Sébastien Danchin, mais il y a toujours des échos sur ces luttes afro-américaines qui vous animent et qui vous taraudent, depuis en particulier vos travaux sur un documentaire consacré à cette rive noire de la Seine en 1956, Lumière Noire, et puis toujours avec la lumière flamboyante de James Brown sous la plume de James McBride.
Ping Pong. La culture sans limite.
dans un monde où les frontières sont devenues des guillotines. Il faut réactiver le chant des Lucioles, un espoir poétique qui ne sait pas encore la forme qu'il va prendre ensuite, mais qui s'élève, comme les esclaves chantaient le blues, avant d'obtenir un jour l'abolition. Cette pensée, c'est celle de l'écrivain Patrick Chamoiseau, qu'on retrouve au cœur de son livre en forme d'appel « Frères migrants ». Prolongement de ce texte et de cette solidarité avec les migrants, un grand concert « Liberté de circulation » aura lieu le 5 juin prochain au Trianon à Paris. C'est le GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés qui aide les migrants sur le terrain depuis sa création en 1972 qu'il organise. On y retrouvera Patrick Chamoiseau, entre autres, la réalisatrice Yolande Zobermann pour la sortie de son encyclopédie « Les mots qui nous manquent ». Les photographes du collectif Œil pour la sortie de leur livre « État d'urgence » ainsi que l'architecte Cyril Anap, contributeur du livre « Disque décampé ». Et puis Arthur H, Flavia Coelho, Gaël Faye, Thaï, Molaïm Ramra liront en arabe, en wolof, en portugais, en tigrinya, des extraits de « Frères migrants ». Mais la chance pour nous ce soir, c'est qu'ils ont décidé de nous offrir un écho avant ce grand concert du 5 juin. C'est parti.
Les poètes déclarent qu'aller venir et dévirer de par les rives du monde sont un droit poétique, c'est-à-dire une décence qui s'élève de tous les droits connus visant à protéger le plus précieux de nos humanités. Qu'aller venir et dévirer sont un hommage offert à ceux vers qui l'on va, à ceux chez qui l'on passe, et que c'est une célébration de l'histoire humaine que d'honorer la terre entière de ses élans et de ses rêves. Chacun peut décider de vivre cette célébration. Chacun peut se voir un jour acculé à la vivre ou bien à la revivre. Et chacun, dans sa force d'agir, sa puissance d'exister, se doit d'en prendre le plus grand soin.
ما يعيشه اللاجئون يتعلق بمغامرة واحدة جديدة وقديمة مغامرة لا تزال متواصلة إنها مغامرة الإنسانية لا يمكن لأي إنسان أن يكون فيها متفرجا أو أن يحفي نفسه من وزر آلامها لا يوجد سوى فيلم واحد ونهايته ستكون واحدة بالنسبة لنا جميعا ومن ثم تكون كل المعارك واحدة وكل منا سيجد نفسه في النهاية بمثابة لاجئ.
L'Irak, la Syrie, l'Érythrée, l'Afghanistan, le Soudan, la Libye sont des artères ouvertes, giclées d'un violet fixe, moirées d'un fond de forge. Ce qui saigne, ces houles vives qui s'épanchent, je parle de gens, je parle de personnes, saignent de nous, saignent vers nous, parmi nous, saignent pour tous. Le continent des Africains du fond de l'Atlantique, continent oublié, là où les cales du bateau négrier ont pu broyer durant des siècles les fondements de l'Afrique, les fils aînés du genre humain, rejoint dans une exacte sidération son double en Méditerranée. Bleu glacial, oublié des clartés. C'est comme un hoquet général, un spasme de nos histoires, sans doute un vomissement. De fait, un vrai recommencement, non du même, mais des forces réadmises de l'horreur.
Les frontières ne font pas que vous empêcher de passer. Elles vous enlèvent une part, voire toute la part de votre humanité. Elles apparaissent comme mises en surbrillance par ces houles humaines qui se font impérieuses. Elles se démultiplient, religieuses, administratives, ethniques, territoriales, psychologiques. Une avalanche d'obstacles qui freinent les imaginations. Ces frontières se retrouvent soumises à dure épreuve et donc se raidissent. Leur alternative est s'assouplir ou de s'aiguiser comme des tranchants de guillotine. Le choix qui a été fait fut de les laisser aller à l'inhumain et d'installer l'inacceptable. Ces frontières multiformes se mettent à broyer de l'humain, les broient encore et toujours sous nos yeux. Elles tuent tous les jours et en masse. Mais elles s'inclineront. Elles ne peuvent que s'incliner sous un imaginaire du monde qui rejoint sa propre diversité et que blessent dès lors les murs et les frontières.
طير ليلي أبيض رائع كالحلم البكر ينضح بعيدا تشربه العتمة نجم يغمز لي يتوهج ينطلق بطول وعمق الجرح يتلاشى فجأة مدن تصحو متورمة الأجفان دور تحجب ضوء الشمس والساحة عاطلة من الخضرة والأطفال يا ترياق القدرة شمس الإمكان غذيني فالوجع المخبوء هنا يجتز شراييني يمتص دفق العافية النشوة شنشنة الأفراح يحرجم في النفس أبدا لا يستاح يأخذني عنوة
L'homme campé sur son seuil qui ne reconnaît pas l'homme qui vient qui s'en inquiète seulement qui en a peur sans pouvoir s'enrichir de cette peur et qui voudrait le faire mourir ou le faire disparaître est déjà mort à lui-même. Il a déjà disparu en lui-même de sa propre mémoire, de sa propre histoire et à ses propres yeux. C'est lui-même qu'il ne reconnaît plus. C'est avec la crainte de lui-même qu'il se menace. C'est de lui-même qu'il se protège et c'est lui-même qui se condamne à ce naufrage qu'il craint. En la matière humaine et dans celle du vivant, le glas ne connaît que tous les horizons. Il sonne d'emblée pour tous et pour chacun. De part et d'autre des murs, à commencer par celui qui l'actionne.
Khare bi waliyani di khare khare bu yagla khare dunya la mbir mi yew yete xamale ne tukki du tekki la. Ce que vivent les migrants relève d'une seule aventure très ancienne qui continue encore notre aventure humaine. Aucun humain ne saurait en être spectateur ou s'exonérer du poids de ses souffrances. Il n'y a qu'un seul film. La fin sera la même pour tous. Dès lors, tous les combats sont liés. Chacun se retrouve, pour ainsi dire, réfugié dans chacun.
Chacun se retrouve réfugié dans chacun. Merci beaucoup à Monaï Ramra, avec Arthur H, avec Taï pour cet entrelacement à la fois de Wolof, d'arabe et de français, cette lecture musicale accompagnée à la guitare, et il faut le préciser bien sûr tout de suite, par Samuel Kamonzi. Non, pas du tout. Eh ben non, on m'avait pas. Voilà, ce sera le
dans
Stéphane.
Lundi, c'est Samuel.
Ok, lundi c'est Samuel au concert. D'accord. Le 5 juin. Merci pour les infos. Superbe. Le 5 juin, donc, ça sera à Paris, au Trianon. Il y a environ 1300 places, mais elles sont déjà en partie réservées. 300 places aussi offertes aux réfugiés. Vous pouvez donc vous renseigner sur le site du Gisti. Merci beaucoup à vous tous.
Ping pong, c'est sur France Culture.
Je viens de recevoir un coup de téléphone du secrétaire général à l'information. Il m'eut pris de demander à tous les curés de bien vouloir faire sonner immédiatement les cloches. Alors, je répète et j'authentifie. Ici Radiodiffusion de la Nation française. Par ordre du gouvernement provisoire de la République, messieurs les curés sont requis de faire sonner les cloches de leurs églises pour annoncer l'entrée des troupes françaises et alliées dans Paris.
Les cloches !
Nous entendons les cloches de notre quartier.
Mais il faut approcher le micro de la fenêtre.
Tenez, écoutez.
Approchons le micro de la fenêtre. Il y a d'ailleurs accompagnement de canons sur les cloches. Je change dans la tire pour les
cloches. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré.
Qu'est-ce que c'est que ce medley? Qu'est-ce que c'est que ce mélange, me direz-vous? Le général, Paris libéré, les cloches de Paris en août 44 au moment de la libération qui déboule, qui débouche sur le magma de Magma, ce groupe de jazz rock bien connu. Eh bien, c'est la faute ou c'est la grâce de Sébastien Danchin. Donc, vous êtes directeur artistique programmateur du Paris Jazz Festival qui débute le 17 juin dans l'écrin chaleureux et merveilleux du Parc Floral de Paris, où on pourra notamment découvrir la reformation, un grand concert du groupe Magma. Mais il faut dire que vous avez commencé dans la carrière comme historien et le premier livre que vous ayez publié, me semble-t-il, en 1990, c'était De Gaulle à Colombey, refuge d'un romantique. Donc il faut nous expliquer un petit peu, peut-être, il y a ce qu'il y a de jazz chez le général, ça se discute, mais peut-être en quoi ce festival, Paris Jazz Festival, c'est non seulement un plaisir savoureux pour les spectatrices et les spectateurs, les auditrices et les auditeurs, mais peut-être, par les temps qui courent, à Paris, un acte de résistance.
Acteur résistant, je ne sais pas, je crois que de toute façon le jazz c'est une musique d'expression de liberté, donc c'est la première forme de résistance.
Qui pourfend les frontières.
Oui, exactement, et qui prône les créolisations et les métissages, et donc c'est important. Donc cette année, le Paris Jazz Festival, déjà traditionnellement, c'est un festival qui apporte du jazz à un public extrêmement large. Ce n'est pas un festival qui s'adresse du tout à des aficionados ou à des fans, c'est un festival qui pense comme moi que la qualité n'est pas rédhibitoire avec la quantité et qu'on peut avoir
très nombreuses places
et qu'on peut avoir je veux dire, chaque année on a plus de 100 000 spectateurs, on est le festival de jazz qui a le plus de spectateurs en France. Il faut dire que c'est un cadre formidable, le Parc Floral de Paris qui fait partie du 12e arrondissement, même s'il est au-delà du périphérique, on oublie que le 12e va au-delà du périphérique, ce lieu est très beau. En plus là, vous pouvez assister à des concerts, ça coûte 2,50 € d'entrer dans ce parc, donc c'est vrai que c'est quand même d'accès extrêmement facile. Le but c'était de montrer depuis le départ dans ce festival que la scène française avait une importance primordiale dans l'histoire du jazz. En 2017 c'est encore plus vrai parce que c'est le centenaire de l'arrivée du jazz en France. Le jazz est arrivé avec les troupes américaines à Saint-Nazaire, au Havre, dans un certain nombre d'endroits en France. Et c'est comme ça que la France a découvert une musique qui était une musique tout à fait révolutionnaire pour son temps. Et surtout, elle l'a pas découvert par des imitateurs blancs, mais par des musiciens noirs qui faisaient partie de cliques militaires. Avec les troupes. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre de régiments noirs. L'Amérique était ségrégée ses armées. Elle les a ségrégées jusqu'à la guerre de Corée, donc pendant les deux grandes guerres.
50.
Et l'Amérique ne donnait pas, pendant la Première Guerre, beaucoup de place à des combattants afro-américains, parce que ça se mérite d'être un héros et de pouvoir aller se battre, et de sorte qu'on préférait laisser aux afro-américains le soin de faire de la musique, conformément à un stéréotype qui fait que, bon, vous savez, toujours les mêmes histoires, ils ont le rythme dans la peau, etc.
Bon, d'ailleurs, James McBride dit qu'il danse très très mal.
Qui est lui-même,
lui, autour de cette table. Il n'oserait pas dire ça de James Brown, je pense.
Non. Justement, justement, non, c'était, pour aller contre ce cliché.
Mais donc voilà, le Paris Jazz Festival cette année, c'est un festival qui est particulièrement français parce qu'on a décidé de mettre à l'honneur cette année la francophonie, justement, et à travers la diversité francophone. Pas seulement les espaces qui sont d'ailleurs francophones, mais les espaces qui accueillent la langue, la culture française depuis longtemps. Donc c'est... Voilà quel est le thème général, même si effectivement on a un week-end consacré au beat et avec Magma, c'est la tournée du 45e anniversaire, c'est une tournée sans fin.
Vous étiez heureux d'entendre ce Magma dans le Général de Gaulle.
Mais oui, c'est très bien, je trouve que ça va très bien. Mais il était très rock'n'roll à sa façon, le Général de Gaulle.
Ah bon ?
Ah oui, beaucoup plus qu'on imagine.
Alors dites-moi un truc rock'n'roll sur le Général de Gaulle.
Par exemple, il ne mangeait jamais ses poules. Parce qu'il avait des poules, il dit « Je ne mange jamais des poules que je ne connais pas ».
Très bien.
Moi, je trouve que c'est bien aujourd'hui.
Arthur Hache, il était rock'n'roll pour vous dans son uniforme ?
J'ai une confidence comme quoi il avait été très amoureux de Maria Callas et qu'il avait à un moment proposé à Maria Callas de tout quitter pour elle et elle a refusé.
Alors Arthur Hache, c'est vrai que c'est une émission jazz, Général de Gaulle et James Brown, c'est une petite circulation.
Était aussi, sans doute,
il est temps d'ouvrir un nouveau volet. Il s'agit de la musique caribéenne parce qu'elle sera présente aussi dans cette conception ouverte du jazz et du mot jazz dans ce festival. Vous baladez beaucoup dans cette zone caribéenne. Ces relations avec le jazz, vous voyez ça comment, Arthur?
Déjà, je voudrais dire
un mot sur James Brown.
James Brown, Jean Marron. Parce que pour moi, c'est vraiment, à part les considérations sociales, politiques, historiques et tout ça, c'est un gigantesque maître de la musique universelle de toutes les époques. C'est vraiment quelqu'un qui est profondément révolutionnaire, même si, comme M. McBride dit, c'est peut-être malgré lui, quoi. Parce qu'en fait, il a ce rapport tellement intime avec la pulsation, en fait. James Brown, presque à lui tout seul, enfin pas lui tout seul, mais il a remis le corps, il a remis la pulsation, il a remis quelque chose d'extrêmement profondément africain dans la musique mondiale, en fait. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a révolutionné la musique pour les 500 ans qui viennent, quoi. C'est vraiment, il y a lui, dans les grands orchestres comme ça, qui avait cette espèce d'horlogerie absolument splendide, extrêmement sophistiquée, magnifique, éternelle, sublime. Il y avait James Brown, il y avait Fela Kuti aussi qui arrivait à ce genre de résultat. Et Bob Marley aussi, dans tu vois, la musique collective, vraiment.
Donc le funk, l'improvisation,
la Jamaïque.
À son plus haut niveau, quoi. Dans l'expression de la musique noire, vraiment, à son plus haut niveau. Et dans le jazz, je dirais l'orchestre. Si on parle d'orchestre, je dirais l'orchestre de Duke Ellington aussi, qui avait aussi un son absolument splendide, féerique, quoi. Miraculeux, en fait. Et donc, ce truc à la, ce rapport intime à la pulsation qu'avait James Brown, il fait que c'est le frère, c'est le grand frère de tous les musiciens. Tous les musiciens, ils aiment profondément James Brown parce qu'il nous a réveillé à nous-mêmes, en fait. Il nous a rappelé qui on est, d'où on vient. Donc, c'est vraiment, un révolutionnaire, en même temps, un grand conservateur parce qu'il ramène vraiment le plus pur de l'origine de la musique à notre époque, quoi.
James McBride, peut-être un regard de l'auteur du livre « Mets le feu et tire-toi », donc phrase de James Brown à la fin de ses concerts, sur ce que vient de dire Arthur Hache. Vous êtes d'accord sur ce rapport à la pulsation qui est remis au cœur de la musique et au corps, justement?
I think y'all have been living in Paris too long.
Oui, vous êtes à Paris depuis trop longtemps, vous tous, là.
Mais emmenez-nous.
Non, non.
Ah, d'accord.
Well, you know, what occurs to me is this.
Oui, il me vient ceci à l'esprit. La musique n'appartient à personne. On revient à
The Father of Funk.
La controverse sur le fait qu'il faut être noir pour participer à cette assemblée dont on parlait. La musique n'appartient à personne. Et moi, si je devais parler à un jeune musicien aujourd'hui, je dirais ceci. C'est que j'aurais aimé qu'on me dise il y a de nombreuses années, c'est ceci. Cette musique ne t'appartient pas. Elle appartient aux dieux, aux Africains qui l'ont créée, aux Européens qui la jouent, et les Afro-Américains qui la jouent. Elle parle à toi, cette musique. Elle est empruntée. Hein. Mais si tu ne traites pas bien cette musique, eh bien, tu as perdu ton temps. Donc, On parlait de James Reese et tous les Noirs qui étaient là pendant la Première Guerre mondiale.
Oui, ça vous connaît, James McBride, parce que vous êtes aussi l'auteur de ce roman Miracle à Santa Ana, qui a inspiré, et vous avez écrit le scénario du film de Spike Lee sur la présence des soldats noirs américains en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Ah oui, je connais l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et la façon dont les Afro-Américains se sont battus ici, puis ils sont rentrés aux États-Unis pour être si piètrement traités. Mais moi, ma démarche est la même que celle de mon beau-père et de mes oncles, ceux qui m'ont élevé, à savoir qu'il faut faire avec, hein, évidemment, cette amertume. Il faut s'en affranchir, il faut aller au-delà de ça. Si vous êtes amer, si vous êtes en colère quant à ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, vous ne mènerez pas une belle vie, une vie heureuse. Et donc, il faut se souvenir que ces soldats noirs se sont battus en Europe, ils sont rentrés chez eux, ils sont maltraités, mais ceux que j'ai rencontrés, moi, ceux qui ont le plus réussi, c'est pas ceux qui ont dit, on s'est battu contre les Allemands, on était, il y avait du sang dans les caniveaux, bref. Non. Il y a des gens, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui disent, moi, je pardonne le passé. Moi, je regarde demain, allez, on va bouffer. Vous voyez? C'est ça qu'il faut garder à l'esprit.
Sébastien,
lui, il était dans le ghetto de Chicago. Donc, lui, il n'a pas besoin de me dire de quoi il s'agit, parce que moi, je sais à quel point les gens pauvres peuvent vous faire confiance, qu'ils viennent du Liberia, du Sénégal, d'Afghanistan ou d'ailleurs. Ce sont des gens qui vous font confiance. Donc, nous, notre boulot en tant qu'artiste, c'est d'ouvrir notre cœur pour qu'ils arrivent dans un monde d'amour et de confiance. C'est ça qu'on leur doit.
Ping-pong, alors après l'afrobeat, le reggae, le jazz, le funk, la soul, on n'a pas pu évoquer les musiques caribéennes, ce sera pour une autre fois car ping-pong, c'est presque fini.
Ce que vivent les migrants relève d'une seule aventure, très ancienne, qui continue encore, notre aventure humaine. Aucun humain ne saurait en être spectateur ou s'exonérer du poids de ses souffrances. Il n'y a qu'un seul film. La fin sera la même pour tous. Dès lors, tous les combats sont liés. Chacun se retrouve, pour ainsi dire, réfugié dans chacun.
We are the people.
Chacun réfugié dans chacun, c'est ce que l'on constatera donc dans ce grand concert Liberté de Circulation organisé par le GISTI lundi 5 juin au Trianon à Paris. C'est aussi ce qu'on constate dans votre livre Mets le feu et tire-toi chez Gallmeister, James McBride, où on cherche à savoir avec vous qui était James Brown pour savoir qui nous sommes. Et c'est peut-être un peu ce qu'on découvrira en chacune et chacun des concerts et des musiciens et des musiciennes qui participent au Paris Jazz Festival dont vous êtes le programmateur et le directeur artistique, Sébastien Dan. Rappelons que Anne Passeo, la batteuse, sera là le 24 juin. Magma, c'est le 25 juin. Et puis, il y a aussi la chanteuse Lisa Simone, fille de Nina. Ce sera le 23 juillet, entre autres.
Le ping-pong est un refuge radiophonique qui se construit en équipe. Et quelle équipe à la rédaction? Aïssette Wendoy, Jeanne Aléo, Seam Boutata, Chouchane Djergaillan et Anna Baron. À la réalisation, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Jacques Hubert. Et Pierrick Monsigny, un grand merci à James McBride, interprété simultanément par Xavier Combe.
Le funky Xavier Combe. Lundi, dans Ping Pong, les acteurs, la troupe de théâtre non moins funky Tejestan, qui reprend du Yasmina Reza, et la figure du dandy Jacques Bacher par Marie Ottavi.
Deux Bachers.